voudrais vous raconter l'histoire de l'identité, ou plutôt l'histoire d'une fille. C'est une fille que l'on prend souvent pour une autre, ou en tout cas qui ne se reconnaît pas dans ce que les autres voient d'elle. C'est comme si elle était une autre parfois dans les yeux des autres, comme si au fond, c'était son double que les autres voient, son double à qui les autres parlent, son double que les autres encensent ou critiquent. Ça ne vous est jamais arrivé à vous de vous dédoubler, d'entendre votre voix sur la scène sociale, dans un dîner ou dans une réunion, et de ne pas vraiment vous reconnaître, ou alors de regarder vos pieds dans le métro et d'avoir l'impression certaine que quelqu'un d'autre s'est glissé dans vos chaussures. Mais quel est au juste le statut de ce double? Est-il vraiment complètement un autre? Non, bien sûr. Mais il n'est pas non plus complètement moi. Peut-on préférer son double à soi-même? Je me souviens de David Bowie affirmant qu'il avait commencé par chanter comme un dandy androgyne, par s'habiller comme un dandy androgyne, et puis finalement, qu'il était devenu celui qu'il avait commencé par jouer. Voilà peut-être un rapport heureux à son double. Mais je me souviens également de Nino Ferrer, ne se reconnaissant absolument pas dans celui qui chantait « Gaston, il y a le téléphone qui sonne » ou « Mirza, mais où est passé ce chien ?» et qui peut-être, je dis bien peut-être, s'est suicidé pour se débarrasser de ce double embarrassant. A-t-on d'ailleurs un double ou plusieurs doubles? Que reste-t-il de notre identité dans le trouble de ces dédoublements? Que reste-t-il de notre identité si elle est multiple, changeante? Si notre personne, ainsi que le dit l'étymologie « persona », n'est qu'un masque de théâtre destiné à se présenter aux autres? Et si, de surcroît, nous changeons ce masque régulièrement? Alors voilà. C'est l'histoire d'une fille qui ne sait plus trop qui elle est. Elle a fui son pays pour être accueillie par un autre. Elle a connu l'exil et c'est très loin des siens, et donc loin de soi, qu'elle s'est en même temps rapprochée d'elle-même. Elle a connu des hauts et des bas, des très hauts et des très bas, et dans les deux cas, il lui a semblé que c'était plus son double qu'elle-même qui recueillait les honneurs ou traversait les déserts. Et puis, elle a compris. Elle allait raconter sa vie, son identité, elle allait se la donner dans un récit. Et ce sera un scénario, ce sera un film. Se donner son identité dans un récit, se raconter sa propre histoire, n'est-ce pas une belle manière de faire vivre nos doubles, de leur faire une place dans une histoire qui est bien celle d'un sujet, celui qui dit « je » quand il raconte son histoire? C'est exactement ce que Paul Ricoeur nomme l'identité narrative. Qui suis-je? Eh bien, je suis le sujet qui se donne son histoire dans un récit. Savoir qui on est, c'est savoir raconter, savoir se raconter son histoire. Pour en parler ce matin, de l'identité multiple et de nos doubles, et de la manière dont tous nous pouvons nous réapproprier notre histoire, j'ai la joie de recevoir l'actrice iranienne, mais également française, Zahr Amir Ebrahimi, prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes, pour son rôle éblouissant dans le très beau film noir d'Ali Abbasi, Les Nuits de Machad. Zahr Amir Ebrahimi, donc, qui nous a rejoint sur le soleil de Platon, dans la caverne de France Inter, pour nous aider à répondre à cette difficile question, mais que faire de nos doubles?
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin sur France Inter.
Bonjour Sarah.
Bonjour.
Vous allez bien?
Très bien.
Merci beaucoup d'être là, alors que le film dans lequel vous avez le premier rôle féminin, Les Nuits de Machad, est sorti depuis une semaine en France. Vous avez eu le prix, excusez du peu, d'interprétation féminine à Cannes. Et avant de vous proposer de répondre à cette question, je voudrais quand même raconter un peu votre histoire pour les auditeurs. Tout le monde ne connaît pas toute cette histoire, qui est assez ahurissante. Mais pendant que je fais un petit résumé de votre vie, rapide, hein, pardonnez-moi, je vous laisse quand même réfléchir à la question, hein, que faire de nos doubles? Mais d'abord, qui êtes-vous? Alors voilà, vous venez d'avoir le prix d'interprétation féminine à Cannes, après être arrivé en France il y a 14 ans, dans un exil forcé, parce que auparavant, en Iran, alors que vous étiez une star de la télé, on peut le dire, vous étiez regardé par 70 millions d'Iraniens tous les soirs dans la série, notamment Narges, eh bien vous avez été victime de la publication d'une vidéo intime sur les réseaux sociaux, et vous avez dû fuir votre pays pour éviter une justice injuste, impartiale, pour éviter les coups de fouet, pour éviter peut-être la prison. Vous avez tout quitté il y a 14 ans et vous êtes passé de cette notoriété immense, star en Iran, à quelqu'un qui arrive sans rien en France et qui doit tout recommencer à zéro. Et ensuite, après 14 ans quand même essentiellement difficiles, eh bien, il y a un mois à peu près, vous avez le prix d'interprétation féminine à Cannes. Alors, j'ai résumé un peu vite, hein, pardonnez-moi hasard, mais il fallait quand même le faire. Et du coup, comment vous vivez comme ça? Quel recul vous avez sur ce chemin avec tellement de hauts et tellement de bas?
Bon, c'est formidable d'être là, après avoir reçu ce prix. Mais comme vous avez dit tout à l'heure, j'ai toujours l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui vit tout ça. Même en ce moment, je suis devant vous, mais j'ai l'impression que c'est pas moi qui ai reçu ce prix. Je me vois toujours, je suis un peu observatrice apparemment. C'est un peu comme si c'était quelqu'un d'autre qui est monté sur cette scène et qui a quand même... qui a réussi à finir son discours.
Un très beau discours. Là.
Mais j'ai un sentiment toujours de... comme étrangeté, ouais, il fallait dire. Mais même maintenant...
Et vous voulez dire que c'est le même sentiment, finalement, de regarder une autre, quand vous êtes victime d'une chose injuste et de la publication, par exemple, de cette vidéo intime qui vous a obligé à fuir votre pays, ou alors quand vous recevez le prix à Cannes?
Oui, mais je pense que ça vient quand même de ce que vous dites, d'aller un peu trop haute, et puis au bout d'un moment, tout tombe, tu perds tout, tout revient encore. Ben, j'ai passé quand même des moments, même ces 14 ans, c'était pas facile, mais c'était pas difficile non plus. Mais parfois, quand je regarde le passé, je me dis, mais qui a vécu tout ça? Comment je l'ai vécu? Et qui je suis?
Ben oui, c'est la question. Quand vous avez reçu ce prix, vous avez, donc je précise quand même que vous avez un doute de savoir si c'est vous. Moi, j'ai vu le film. C'est un film très beau, très puissant, très noir, très violent. Mais et vous, je vous trouve incroyable dans votre jeu, un jeu très lumineux avec une très subtile et très forte expressivité du visage. Donc moi, j'ai l'impression que c'est bien vous, que vous êtes la même personne. Quand vous avez reçu ce prix à Cannes, vous avez dit « Ce film parle des femmes, de leur corps. C'est un film rempli de haine, de mains, de pieds, de seins, de sexe, de tout ce qu'il est impossible de montrer en Iran. » Donc oui, ce film, « Les nuits de Machad », ce qui est encore fou dans l'histoire, j'ai même pas eu le temps de le dire, c'est qu'en fait, ça devait pas être vous l'actrice, vous étiez directrice de casting. Et puis, ça marchait pas, Ali Abbasi n'a pas trouvé, ou du moins, il avait trouvé une actrice qui finalement a planté, je crois, ou ça s'est pas fait. Et alors, il s'est dit qu'il avait devant les yeux la bonne personne, et c'était vous. Ça aussi, c'est fou, non?
Ouais. Bah, d'abord, je profite pour corriger quelque chose, parce que ça traduit la haine, alors que j'ai dit en anglais, « This movie is full of faces ». J'ai jamais parlé de la haine, c'est pas un film qui va raconter la haine. Je parle plutôt des corps, des visages, des...
Du coup, ouais. le mot haine, il faudrait le traduire par quoi? Faces, des visages.
Des visages.
Ah oui, d'accord.
Voilà.
Mauvaise traduction. Cela dit, il y a quand même beaucoup
ouais,
de haine.
C'est écrit
pour
partout,
les femmes.
Malheureusement.
Oui, mais même dans le film, parce que je raconte un peu l'histoire, mais surtout aller le voir au cinéma. C'est quand même un serial killer qui est un père de famille qui a l'air bien, pieux, etc. Et qui, en fait, massacre des femmes prostituées. Et donc, déjà, il y a quand même de la haine en lui. Mais le paradoxe, c'est que finalement, il va être défendu par toute une partie de la société iranienne. Comme si cette partie de la société était, elle aussi, gangrénée par une sorte de haine de la liberté, une haine du féminin, une haine du corps, en fait.
Oui, de ce point de vue, c'est vrai. Et pour revenir sur votre question, oui, c'est drôle, c'est comme un miracle que je joue ce rôle de Rahimi, la journaliste dans ce film. Parce que j'ai commencé mon travail avec Ali Abbasi il y a 4 ans comme directrice de casting. Puis j'ai changé pas mal de casque, en fait. Bah, je suis devenue la productrice associée du film à la fin aussi. Mais j'étais jamais censée de jouer. Surtout, bah, par principe, je voulais être concentrée sur mon rôle de directrice de casting. Il y avait beaucoup de rôles. On a eu pas mal de difficultés. Il voulait d'abord tourner en Iran. Il n'a pas réussi. Puis en Turquie, ça n'a pas réussi. On a changé le lion. On est parti en Jordanie. Il fallait trouver des petits rôles en Jordanie, les apprendre forcés. Voilà, il y avait vraiment beaucoup de choses.
Et c'est quoi le moment où il s'est dit « c'est vous » ?
Déjà, il me voyait pas la journaliste. Il cherchait toujours pour une fille un peu plus costaud. En tout cas, moi, comme je suis dans la vie normale, c'était pas ce qu'il cherchait.
Je précise que vous jouez le rôle de la journaliste d'investigation.
Ouais.
Et qui insiste et qui commence à comprendre qu'il y a une sorte d'omerta, que ce serial killer est un peu couvert par le pouvoir, on sait pas trop. Et c'est vous qui insistez comme ça et qui ne lâchez pas l'affaire.
Et elle est un peu dure.
Ouais.
Et moi, j'ai des côtés super durs. Mais je pense qu'Ali, il connaissait pas ce côté-là. Et bon, finalement, après 3 ans, on trouve une actrice super talentueuse en Iran. Et elle est une jeune actrice qui a moins de 30 ans. Et on l'invite, elle était d'accord, mais juste 2 semaines avant le tournage, elle change d'avis. Je pense qu'elle a eu peur. Et elle nous annonce que... Et en plus, c'était honnête de sa part, parce qu'elle nous a dit que ce journaliste, elle doit être courageuse. C'est pas moi. Et j'ai peur. Elle était même surprise. Et du coup, et c'est là que, parce qu'on n'avait plus de choix, on avait essayé avec toutes les actrices qu'on connaissait, aux États-Unis, en Europe, en Iran, et il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Et c'est là qu'elle a dit, bah, j'ai commencé à pleurer quand cette fille m'a annoncé ça, parce que c'était super dur, surtout parce qu'on est en train de faire un film sur les femmes.
Ben oui. Mais juste, je vous interromps pour que les auditeurs comprennent. Pourtant, vous étiez déjà actrice, vous avez eu des énormes rôles à la télé en Iran, même déjà au cinéma, vous aviez joué notamment pour Kiarostami, vous aviez eu un prix déjà d'interprétation féminine à Nice il y a 4 ans, au Festival de films de Nice. Donc vous auriez pu y penser à vous-même et lui aussi. Et là, qu'est-ce qui s'est passé?
Et là, il y a un petit colère qui remonte en moi, en fait, par rapport à cette fille. Et je commence à parler avec elle, vraiment, mais en colère. Et je pense que c'est là où j'ai vu Ali qui me regarde. Et je pense que je suis presque sûre que c'était là qu'il a compris que non, j'ai une dureté infinie et que je peux incarner ce rôle. Et c'est là qu'il vient me dire, mais ça, je crois que il faut qu'on essaye. Il y a plus de choix, il faut qu'on essaye, on n'a pas le temps. Et le lendemain, on fait une journée complète, vraiment une journée entière de casting ensemble. Et c'est à 2h du mat, 2h du matin, finalement, que moi, je donne des idées un peu de ma vie personnelle, elle y rajoute. Et il y avait quelque chose qui s'est passé super joli et on a réussi à vraiment trouver le personnage. Et le lendemain encore, il m'annonce qu'il veut partir avec moi. Du coup, c'était incroyable. Quand même un peu miracle. J'avais une semaine pour me préparer.
Et... Il y a quelque chose, ouais, du miracle ou alors d'une sorte de destin, peut-être.
Toute chance se paye. Alors, par exemple, vous allez me dire, mais on voit des gens qui ont de la chance toute leur vie. Hein? Et d'autres qui n'en ont pas du tout. Il y a des destins heureux, chanceux, malheureux, malchanceux. La justice n'est pas dans la nature.
Oui, alors Zahar, je vous ai préparé ce petit extrait parce que voilà, vous avez souvent eu l'impression d'avoir de la malchance quand même, puisque vous avez quand même été victime d'une sorte d'acte ignoble, peut-être par jalousie, on ne sait pas trop pourquoi cet homme qui était un ami de votre ex, petit ami, a fait ça. Dans le pays, l'Iran, où il a fait ça, c'était criminel, c'était très dangereux, vous auriez pu... avoir la pire peine. Donc voilà, la malchance, vous vous retrouvez comme ça à devoir tout quitter, être exilé, heureusement accueilli par la France, et puis finalement, après beaucoup d'histoires que j'ai un peu résumées, vous avez quand même le prix d'interprétation féminine à Cannes, au Festival de Cannes. Alors, chance, malchance, comment vous voyez ça? Est-ce que ça vous parle, ces notions, ou est-ce qu'il faudrait le voir autrement?
Non, mais c'est vrai que ça me parle. C'est vrai que je me trouve plein de fois dans la vie avec... j'ai pas de chance. J'arrête pas de répéter et je ne sais pas, même si j'ai eu ce prix formidable, c'était par rapport à la chance ou pas, mais c'était, je pense pas. Je pense que c'est un moment, finalement, qu'on m'a vu, qu'on m'a senti, qu'on a vu mon parcours. Et vraiment pas lié à la chance, je ne sais pas. Je pense qu'aussi, peut-être, cette rencontre avec Ali Abbasi, peut-être que c'est la chance.
Oui, mais la chance, en même temps, se provoque.
Voilà. Je pourrais lâcher, ça a duré 4 ans. Il y avait beaucoup de problèmes. Il y avait plein de fois que je me dis, non, mais je ne continue pas avec ce projet. J'en peux plus, il faut que je m'arrête, il faut que je pars pour autre chose. Et encore, il y avait quelque chose que j'avais envie de me battre.
Bien sûr.
À un moment, j'avais envie, un jour, j'ai dit à Ali Abbasi, mais je veux juste voir que ce film se réalise, que c'est possible de faire un film d'Iran.
Parce que finalement, ce personnage, quand même, de journaliste d'investigation opiniâtre, un peu dur, a fait écho aussi à votre parcours, à votre histoire. Donc, vous y avez mis beaucoup de vous-même. Je précise quand même que, suite à votre départ d'Iran, à peu près le jour, je crois, où vous alliez, où vous deviez vous présenter devant la justice, devant le procureur qui s'appelle, je crois, Mortazavi, qui est particulièrement obtus et conservateur, enfin, et surtout injuste. Après, vous avez, les réalisateurs iraniens n'avaient pas le droit de tourner avec vous. Vous avez été annulé de plein de projets qui étaient prévus. Ouais. Vous avez vraiment été victime de ça. Vous avez traversé une sorte de nuit. Et c'est vraiment avec beaucoup d'émotion qu'on vous voit maintenant arriver dans la lumière.
The fire I breathe, love is a banquet on which we feed.
C'était Patti Smith, Because the Night.
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin, sur France Inter.
Nous sommes toujours avec Zahr Amir Ebrahimi, qui est à l'affiche de ce très beau film noir de Ali Abbasi, Les Nuits de Machad, qui est sur nos écrans en France depuis une semaine. Et Zahr, vous venez d'avoir le prix d'interprétation féminine à Cannes pour votre performance, je trouve, éblouissante. J'ai l'impression de vous crever l'écran, ce visage qui dit tellement de choses, tellement de silence aussi. Et on parlait de l'exil avant d'écouter Patti Smith, l'exil que vous avez connu en France quand même pendant 14 ans, je crois, à partir du moment où vous avez dû fuir l'Iran en raison d'une affaire judiciaire inique. Et comment on reconstruit sa vie dans ces moments-là? Est-ce qu'on s'invente une nouvelle famille? Quel recul vous avez sur ce moment où finalement la France vous a accueilli?
Ben, je pense que oui, c'est vrai que j'ai essayé de créer quand même une nouvelle famille. J'avais des amis, j'avais quand même une petite famille de loin, des cousins, des cousines en France. Mais en fait, avec les conditions avec lesquelles je suis mis les pieds en France, c'était pas du tout facile de fréquenter avec les amis, c'était pas facile de garder le lien avec la famille.
Je crois que vous n'avez pas vu votre père pendant très longtemps.
J'ai pas vu, oui, ma famille, c'est toujours compliqué à cause de visa, à cause de plein de choses, mais justement, mon père, je l'ai pas vu pendant 9 ans, mon frère pour 7 ans. Mais la famille, c'est autre chose. comment tu arrives avec ce trauma? Parce que même si j'ai toujours essayé de ne pas être victime, de ne pas me sentir comme une victime, comme quelqu'un qui a perdu tout, mais de toute façon, j'arrive avec un trauma qui peut être infini, qui m'a pris quand même 1 an, 2 ans pour devenir moi-même. J'ai commencé par de petits boulots, je parlais même pas la langue, j'étais dans le métro, je comprenais même pas de quoi ils parlent les gens. Et puis, je savais même pas si, vous voyez, mais surtout avec les Iraniens, il y a toujours cet espace de peur. Et peut-être aujourd'hui, on arrive plus facilement à gérer tous ces sentiments, mais à l'époque, il y avait quand même un espace de peur autour de moi, tout le monde avait peur de sortir avec moi, mais ça je veux pas dire que je l'ai senti en France, mais je l'ai ramené avec moi en France, parce que c'était horrible en Iran, la dernière année, il y avait vraiment une solitude à fond, et j'étais plutôt emprisonnée à la maison, je voyais que ma famille et 3-4 amis, j'ai amené tous ces sentiments avec moi, donc ça m'a pris quand même du temps pour revenir sur mon état normal. Pour me retrouver. Et je pense que c'était pas, en tout cas, facile de commencer par des petits boulots comme un babysitting ou comme d'être serveuse au resto. Alors que j'avais l'impression que j'ai quand même créé mon carrière en Iran.
Bien sûr.
Je suis partie très tôt, un peu loin. Et là, c'est pour ça que dès le début, je ne me connaissais plus. Je ne savais pas si je suis bien zar ou... je me souviens, il y avait des fois qu'on me demandait « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» cette question hyper française. Ouais. Et au bout d'un moment... J'avais vraiment, je ne savais pas quoi répondre.
Mais d'ailleurs, même avant, quand vous étiez donc cette star de la télé iranienne, je précise que c'est 70 millions de téléspectateurs chaque soir qui vous regardaient. Vous jouiez le rôle d'une femme très conservatrice, d'une religieuse un peu mièvre. Et
non, ça c'était avant.
Narguez, c'est ça.
Non, ça c'était un autre. Aide-moi.
Oui.
Autre série. Il y avait diffusé.
Oui, il y a eu plusieurs séries. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on vous arrêtait dans la rue, déjà en vous confondant avec ce personnage. Donc déjà, il y avait une question de double. Vous n'étiez déjà pas vous-même, même quand c'était sous le jour du très grand succès.
Ouais. Oui, c'est drôle, parce que même quand la vidéo intime de moi s'était mise à circuler dans la société, les gens l'appelaient plutôt le film de Zohré.
Oui, avec le nom du personnage. C'est dingue, ouais. Et ce qui était évidemment un grand écart, puisque le personnage était un personnage très, très mièvre, très, très retenu, très, très, très effacé, et là qu'on voyait soudain dans une vidéo intime.
Oui, voilà. Oui, mais je pense que ça vient avec ma naissance. Oui, moi, mes parents ont choisi Zahra comme prénom, mais ils m'ont jamais appelé Zahra. J'étais toujours Zari, Doré pour eux. Et au bout d'un moment, mes amis ont commencé à changer, même Zari, c'est devenu Zahra, l'or. Et en France, on m'appelle milliers de fois Amir Ebrahimi, c'est très difficile à dire. C'est toujours, on me prend comme un monsieur parce qu'il y a un Amir. Ouais. Du coup, tout est confondu et parfois j'ai l'impression que tous ces sentiments de double quand je vous parle, parfois je ne sais pas qui je suis. Ça vient avec ma naissance, avec son nom, son prénom et tout ça. C'est un peu comme ça se passe dans un rêve, mais...
Vous devez bien aimer les films de David Lynch.
C'est pour ça, oui.
Mais alors, quand on est comme ça, avec un sentiment d'égarement, au milieu de ces multiples doubles, la question qu'on peut se poser, à la fois philosophique et existentielle, c'est comment on fait pour redevenir le sujet de sa vie, au fond?
Moi, d'abord, j'ai pris un petit distance. Depuis la première nuit où j'ai entendu que cette vidéo commence à être mise en... En fait, se circulait dans la société. Moi, j'ai eu hyper peur. Première chose, j'ai pensé à ma vie comme un film. Je me suis dit, ça, c'est le film le plus grand de ma vie. Il faut que je le joue bien. Et je vais faire un film un jour dessous. Mais c'est vrai que ça m'a pris du temps. Quand je suis arrivée en France, je savais que ça, je ne peux pas raconter une histoire personnelle sans prendre la distance. Donc ça m'a pris vraiment des années. Il y a un jour que je me sens prête à écrire, prête à me regarder d'extérieur de moi. Et j'ai commencé à écrire des centaines de pages que j'ai écrites pour trouver l'histoire.
Pour
un scénario, oui. Et ben, je ne l'ai jamais réalisé.
Pour l'instant.
Je n'ai jamais fini même l'écriture parce que ça parle de plein de choses. Mais je pense que première chose pour moi, c'était cette distance et que j'arrive finalement à me regarder de l'extérieur comme une observatrice.
Mais finalement, même avant l'exil, il y avait ce même sentiment d'étrangeté finalement, d'étrangeté à soi-même, de trouble par rapport à tous ces dédoublements que nous connaissons tous, mais qui a dû être, on imagine bien, encore épaissi et intensifié par l'expérience de l'exil.
L'exil, vraiment, je dis toujours, c'est qu'on perd un bras, et cette bras, ça va jamais pousser. Même si je rentre un jour en Iran, le bras est parti pour toujours. Je vais être handicapée pour toujours. Mon âme est handicapée éternellement. Et ça va jamais être guéri. Mais en même temps, on va à Paralympique. On va faire des compétitions en Olympique des âmes cassées. Et des fois, on devient les champions. Des fois, on est des champions, en fait, par-ci, par-là. On peut toujours sortir comme un oiseau de cendre. C'est vraiment, on brûle. C'est fini, tout est fini, mais de ces cendres-là, il y a un phénix qui va venir parce que il y a rien. Et dans cette rien, il y a tout.
Alors Zahar, je vous voyais ému et je vous voyais sourire en écoutant votre amie Golshifteh Farahani, compagne d'exil, raconter comment elle l'a vécu.
Ah, c'était pas facile pour elle non plus. Je pense qu'elle... Elle aussi, elle était vraiment dans... Elle vivait sa gloire, elle était partie aux États-Unis, elle a fait un film à l'âge que personne ne l'attendait. C'était une surprise pour toute la société. Et après, à la place de l'applaudir, on la demande de sortir. On ne l'a jamais demandé, mais on l'a fait sortir d'Iran. Et je me souviens très bien, on s'est retrouvés, elle est arrivée juste 6 mois après moi. Et c'est pour ça, moi, j'ai parfois l'impression qu'elle est plus que ma sœur, mon amie, elle était toujours comme mon double. C'était toujours comme si elle a vécu ce que j'avais envie de vivre. Mais il y a un moment qu'on arrive, qu'on se mélange avec cette histoire d'exil. On se retrouve à Paris, on a tout perdu, on n'a rien. Il faut reconstruire tout à zéro. C'était pareil pour elle, c'était comme ça pour moi. Golshifteh est vraiment courageuse. Elle est vraiment un rôle modèle pour pas seulement les femmes iraniennes, je crois. Je pense que pas mal de femmes de partout dans le monde entier. Parce qu'elle est vraiment un exemple de quelqu'un qui se bat. Et, voilà, comme elle parle de marathon. Je pense à... Il y a une histoire d'un monsieur qui courait, qui tombe, qui se casse les jambes, mais il continue quand même à courir et qu'il arrive même 1 heure, 2 heures plus tard. Dans une façon, il a gagné, parce qu'il a réussi quand même d'arriver à la fin.
Bien sûr.
Et je pense que c'est l'histoire de moi et Golshifteh, et tous les gens exilés un peu.
Ouais. Mais l'arrivée du marathon, c'est Festival de Cannes. Prix d'interprétation féminine pour vous, Zahar. Vous racontez comment votre double, donc, Golshifteh Farahani, vous a à un moment beaucoup aidé, puisque on vous a demandé, elle était à côté de vous, alors tu fais quoi dans la vie? Est-ce que vous évoquiez tout à l'heure la question très française, et puis vous avez pas su répondre. Vous avez dit, je fais rien. Et là, elle s'est énervée contre vous. Elle a dit, mais tu n'as pas le droit de dire ça, c'est n'importe quoi, tu es actrice, tu es comédienne, ne répète plus jamais que tu ne fais rien. Et vous dites que ces paroles vous ont porté.
Ouais, Et c'est intéressant parce que après, plus tard, j'ai lu dans un interview aussi qu'elle aussi, elle avait le même sentiment. Qu'elle aussi, elle savait pas quoi répondre à cette question et elle avait un moment senti qu'elle est peut-être plus actrice. C'est pour ça, c'est même plus touchant parce que c'est vrai, j'oublie jamais ce moment. C'était, justement, c'était Louis Garrel qui me demandait qui tu es.
Oui.
Et bon, je savais pas un acteur, qu'est-ce que oui. je dois répondre?
Oui.
Est-ce que je suis comme lui, un acteur? Donc, je me pose cette question tous les jours. Mais là, en face de lui, Goldshifté, je me disais, non, mais je suis plus actrice, je suis rien. Et ce qu'elle m'a dit m'a vraiment repoussé jusqu'à fin. À partir de ce moment-là, j'ai jamais oublié sa voix dans mes oreilles qui me dit, non, tu répètes plus ça, t'es une actrice. Même si j'ai pas joué, mais je savais que je suis une actrice et c'est ça le but.
C'est bien, ça veut dire que parfois il faut pas hésiter à être un peu dur avec ses amis, à leur rappeler à cette exigence. Alors finalement, quand vous avez fui l'Iran, c'est la France qui vous a accueilli, mais c'était pas spécialement là où vous vouliez aller au début.
Non, pas du tout, j'avais jamais pensé à la France, mais c'est comme ça, c'est le hasard.
Vous vouliez aller en Angleterre plutôt?
J'avais envie de partir à Londres parce que j'avais de la famille là-bas, puis je parlais la langue. Ou sinon, même si j'avais pas envie de partir super loin comme aux États-Unis, mais en tout cas, je pense que c'est plus facile pour moi comme actrice de continuer mon carrière, surtout avec la langue que je connais. Mais finalement, on m'a pas donné visa. On voulait pas se mettre en danger avec, en relation politique avec l'Iran. Et c'est la France je veux dire que c'était vraiment un hasard qui est tourné comme une chance cette fois-ci.
Oui. Mais la France a en tout cas bien joué son rôle de terre d'accueil, pour le coup.
Ouais. Ouais, mais, oui, je suis vraiment reconnaissante parce que.
Elle a pris un petit risque diplomatique.
À la fin, j'adore la France. Comment?
C'était un petit risque diplomatique quand même.
Je crois. Ouais. Sûrement.
Des pompes, on fait des rails les nuits. On aime les histoires de trains qui tombent. On fait tourner le monde et la lumière surgit. Un trou dans le noir, le temps d'une seconde. Puisque la nuit est belle. Garde les yeux grands ouverts dans nos échappes-pelles. Le feu marche avec nous. Le feu marche avec nous. On rêve de long feu. On rêve de coins ici. Mais parfois même la fumée retombe. Tourner le monde, on fait des rails les nuits. On aime les histoires de trains qui tombent. Puisque la nuit est belle, qu'on veut rien en perdre. Pour moi, c'est debout. Je garde les yeux grands ouverts. Dans nos échappes belles, le feu marche avec nous. Puisque la nuit est belle. Garde les yeux grands ouverts. Dans nos échappes-belles, le feu marche avec nous. Le feu marche avec nous. Dans nos échappes-belles.
C'était Chien Noir, Échappée Belle.
Sous le soleil de Platon. Charles Pépin sur France Inter.
Nous sommes toujours, nous avons la chance d'être avec Zahr Amir Ebrahimi. Moi aussi, j'ai failli écorcher votre nom. Vous avez le premier rôle féminin. Vous jouez la journaliste d'investigation dans le film Les Nuits de Machad de Ali Abbasi. Très beau film. Un film où on montre tout, où beaucoup de violence est montrée, beaucoup de sexe. Peut-être pour dénoncer la société iranienne dans laquelle tout est caché?
Ouais. Je pense que plutôt, bah, je ne suis pas dans sa tête, mais je pense que c'était plutôt pour, comme un miroir. Pour laisser les gens de se regarder dans ce miroir un petit peu sale.
Oui. Vous n'êtes pas dans sa tête, mais vous avez quand même accompagné le projet, vous avez coproduit, vous avez fait le casting avant de jouer le premier rôle, alors ne soyez pas malhonnête. Mais vous voulez dire que, parce que je sais que c'est un peu touchy en ce moment avec l'Iran, vous avez été menacé, on espère que tout ça va se calmer, va s'apaiser, parce que c'est vrai que certains Iraniens ont eu l'impression que la société iranienne tout entière était dénoncée, ce qui n'est pas, je crois, le propos du film. Mais quand même, il y a ce personnage de serial killer. C'est vrai qu'on peut se dire, voilà, c'est juste un fou. C'est un individu. Il n'est pas nécessairement représentatif d'une tendance lourde de la société.
Non, je pense que même s'il a des tendances, parce que quand même, on parle d'un monsieur religieux qui est parti en guerre d'Iran, d'Irak. Oui. Il a des pensées un peu extrémistes, mais il a un bon père de famille. Il est super gentil. Il y a un film documentaire déjà sur ce monsieur.
Oui, parce que j'ai oublié de dire, pardon, que c'est inspiré d'un fait divers réel, évidemment.
Ouais. Et même quand on voit le film de documentaire, on voit très bien qu'il est hyper charmant, il est hyper gentil.
Il est double, lui aussi.
On l'aime.
Il est double.
Voilà.
D'ailleurs, je dis au passage que l'acteur est incroyable.
Ah bah,
il joue
super.
Incroyablement bien. C'est dingue. C'est dingue. Ouais.
Ouais.
C'est vous qui l'avez casté, d'ailleurs.
Ouais.
Ah oui, ouais. Bravo.
Bah c'est ça, il s'est mis aussi en risque. Pour l'instant, il ne peut plus retourner parce qu'on n'a pas vraiment. On voit bien que le film n'était pas bien reçu, même si on ne l'a pas vraiment vu en Iran. Mais sous texte, c'est devenu le sujet du film, alors que ce n'est pas ça. On ne parle pas de la religion, on ne parle pas vraiment des chiites du monde, on ne parle pas du imam. Mais c'est vrai que c'est passé, l'histoire vraie s'est passée dans cette ville, et ça nous permet
une ville sacrée.
D'aller, voilà, vraiment une grande ville sacrée, c'est une destination des chiites du monde,
oui.
Et il y a malheureusement ce business de prostitution là-bas, ça c'est pas caché, tout le monde le sait,
oui.
Mais ça c'est un peu culturellement. Je ne peux pas dire vraiment culture, mais on a appris de la République islamique qu'il faut tout cacher, qu'il ne faut pas parler des problèmes, qu'il ne faut pas montrer des problèmes. Pour tous les films iraniens qui sortent même d'Iran et qui sont montés en Europe et qui montrent un peu cette société, la folie de la société, c'est considéré pour eux comme un film super noir. Alors que ben on fait pas mal de films hollywoodiens ou français ou européens aussi sur les problèmes de société, ça veut pas dire qu'on parle mal de notre société. C'est plutôt pour mettre lumière sur les problèmes parce que à mon avis le cinéma, c'est ça l'avantage avec le cinéma, parce que tu sors d'un film, si tu es bien touché par ce film et son sujet, tu vas quand même réfléchir, tu vas revenir milliers de fois sur ces images que tu gardes dans ta tête. C'était ça, je pense, que le but de ce film aussi.
Dans votre expérience de votre vie dans cette société iranienne, donc avant de fuir, et puis même quand vous étiez adolescente, finalement, c'est un monde dans lequel on ment beaucoup. On joue à être un double, puisque sur la scène sociale, on apparaît d'une certaine manière, mais dans la scène intime, on apparaît autrement. Est-ce que finalement, c'est pas une bonne école pour devenir acteur?
Si, je dis toujours que l'Iran a 84... comment dire, la population,
millions.
Ça fait 84 millions. Et c'est-à-dire qu'on a 84 millions acteurs. Et c'est exactement ça. On a vraiment appris dès le début, depuis que je me souviens, j'ai appris qu'il faut mentir. Il ne faut pas montrer comment c'est notre comportement à la maison quand on est à l'école. On est plus grand quand tu travailles, il faut que tout le monde, hier soir tu étais où, tu dis jamais que j'ai fait. On est à la fois un peuple en joie énorme. On a envie de fêter, on a envie de boire alcool, on a envie de faire l'amour, on a envie comme tous les autres peuples du monde. Mais à la fois, il faut le cacher, il faut dire que non, je fais rien, je touche personne, je bois rien et je fais pas la fête. Pourquoi? Parce que là, on s'en face avec des coups de fouet, avec la prison, avec... Il y a vraiment... On habite dans une société totalitaire et je pense que ça... cette comédie, c'est un peu le caractère des sociétés totalitaires.
Bien sûr,
aussi.
Et quand vous racontez ça, j'ai l'impression de lire les livres de Kundera, notamment La plaisanterie, où il raconte bien qu'on est obligé de mentir tout le temps, de jouer une comédie, qu'il y a plein de trahisons, trahisons sur trahisons. D'ailleurs, je ne voudrais pas spoiler la fin du film, mais ça parle aussi de ça, le film, et c'est assez puissant. Et on comprend mieux, d'ailleurs, en vous écoutant parler de la vie en Iran, votre beau discours de réception de votre prix d'interprétation féminine à Cannes. Comme vous avez dit, merci à la France, et puis ce pays où les gens aiment être malheureux. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Je crois que je devine, mais bon.
Bon, c'était une plaisanterie, mais je ne dis pas que la France... En fait, dès le début, j'ai senti qu'il y a un point commun entre les Iraniens et les Français. Oui. Et c'est vraiment ce qu'on râle tous. Nous, on est super contents en Iran. Oui, c'est vrai, il y a des problèmes, il y a tout ce qu'on sait dans le monde, mais... Au niveau de la joie, moi, je pense qu'on est vraiment comme les autres peuples du monde. Ils font des voyages tous les jours. Mes amis, ils sont super contents. Ils ont leur boulot. Nanani, mais on râle. Là, en France aussi, c'est un peu pareil. Il y a vraiment pas de misère en France. Peut-être moi, comme un immigré, je peux parler de misère que j'ai vécu, mais parce que pour toute cette histoire de l'exil, mais je pense pas qu'il y a vraiment une misère. On vit dans un pays super beau, il y a une culture super riche, on se comprend quand même, on est en train de vivre tous ensemble, mais on râle.
Votre propos fait penser à celui de Sylvain Tesson qui dit « La France est un paradis dans lequel les gens se croient en enfer ». C'est vrai que l'enfer, ça existe quand même ailleurs. Dans votre discours, il y a aussi un très beau moment, très, très émouvant, où vous parlez de celui qui a été votre compagnon pendant longtemps, Jules, et même de ses petites filles, et vous les remerciez. Vous dites, je crois même qu'ils vous ont sauvé, c'est ce que vous dites?
Ils m'ont sauvé. Toute la famille. Non, mais j'ai appris encore une fois de Jules et de ses filles qu'il faut garder l'espoir. Que la chance n'existe pas, que je suis pas... C'est vraiment grâce à lui que j'ai appris que je dois plus répéter que j'ai pas de chance.
Oui.
J'ai eu chance de rencontrer Jules aussi dans ma vie et que vraiment, après des années super difficiles d'exil, je me suis sentie à la maison.
Et cette fois, c'était peut-être pas votre double que les yeux de Jules voyaient, c'était peut-être vous-même?
Ah, ça, je ne sais pas.
Il faudra lui demander. D'ailleurs, Jules a été un petit peu visionnaire, puisque dans son dessin animé, 50 nuances de grec, il vous a fait jouer, avec d'ailleurs votre ami Golshifteh Farhani, un rôle prémonitoire. Alors on écoute cet extrait du dessin animé de Jules.
Nous sommes à présent dans la grande salle, juste avant la projection de l'honneur de la Perse, et c'est Hélène de Troie qui a reçu cette année un Homer d'honneur qui va ouvrir la cérémonie.
Je déclare la 7803e édition du Festival du film mythologique ouverte.
وای بابا لهم دارون بس که دیشب تولد گیلگمش خودمون رو خفه کردیم
La seule solution quand on a trop bu c'est de reboire encore
Je connais un dealer originaire de la mythologie celtique qui peut nous trouver du super whisky
Heureusement que nos parents se sont barrés en week-end à Persepolis
C'est bizarre qu'ils aient choisi un film aussi pointu pour la soirée d'ouverture
Ils allaient pas choisir Rambo 4 ou Ramsès 2
Enfin ça m'étonnerait qu'ils aient un prix
d'or du meilleur film est attribué à L'honneur de la Perse de Ishtar Amir Ebrahimi.
Et voilà, encore une fois la palme du snobisme.
Les malheurs de la déesse Ishtar à Babylone, à part une poignée d'orientalistes de langue zo, je vois pas qui va aller voir son film en salle.
Alors il a été visionnaire, Jules.
C'est ça mon rêve. Je vois ce prix avec ce film.
Finalement, il a toujours cru en vous.
Je crois. Mais il m'a fait croire en moi-même, en fait.
Ça prouve d'ailleurs qu'on a aussi besoin, finalement, c'est aussi ça la question du double, hein, d'en passer par les autres, au fond, pour revenir à soi.
Oui, je pense que c'est un peu ça aussi. On entend la voix de Goldshifter. Oui. C'est pour ça, parce que je connais vraiment cette histoire de double dans ma vie. Il connaît bien Goldshifter aussi. Et c'est vraiment c'est ça. Et après, vous savez, je pense que le cinéma, lui-même, il a cette histoire de double. C'est la base du cinéma. C'est quand on fait un film, c'est comme si on est en train de dupliquer. Cette caméra-là est en train de dupliquer tous les personnages ou l'histoire. Et je pense qu'on s'est mis, on est tous d'accord un peu sur ça. Et puis, quand un auteur, une autrice commence à raconter sa vie, c'est un peu, encore une fois, c'est comme si tu es en train de te dupliquer.
Bien sûr.
Et c'est ce que ça, bah, exactement, ça m'est arrivé avec, en écrivant mon histoire, en écrivant ma vie, mon dernière année en Iran. Et comme Jules était quand même un observateur, et en même temps, il m'aidait à écrire. On se parlait beaucoup et je pense qu'on a vraiment, au bout d'un moment, on a vraiment senti la présence de ce double dans ma vie. Y a pas mal des histoires que je peux vous raconter. Y a des moments super difficiles et que je pense à la fin, parce que j'ai commencé à faire des grandes recherches sur cette histoire de double et alter ego et ce qu'on désigne en fait comme deuxième soi-même,
oui,
ou le meilleur ami de soi. Et que je dis parfois que c'est Goldshifter, son meilleur ami pour moi, mais je rigole, mais alors que je sais que dans moi-même, il y a un meilleur ami de moi-même qui devient parfois mon ennemi et qui devient parfois hyper, hyper destructif. Et je pense que c'est ça qu'exactement avec Jules j'ai appris, en tout cas, ils m'ont, après toutes ces années, comme j'ai dit, de difficultés d'exil et tout ça, il y a un moment que tu as envie de vraiment te détruire, même si tu n'es pas conscient.
Oui.
Parce que je pense que ce trauma, cette histoire de double, tout ça, ça joue avec ta conscience, avec ta mémoire et puis avec ton identité.
Surtout que finalement, il n'y a peut-être pas un double, il y en a peut-être plusieurs. Enfin, d'ailleurs, ça devrait s'appeler autrement.
C'est exactement ça, oui. Et donc, j'ai vraiment... C'est drôle parce que je pense que ce double m'a sauvé, en fait. J'ai commencé à jouer avec ce double dans ma vie. Même si j'écris plus sur cette histoire de double, mais je le vois partout, on est ensemble, on fait des choses rigolotes. Et parfois, il y a des gens autour de moi qui le connaissent comme Goldshifter et Jules, on peut rigoler ensemble et c'est beau, ça m'a donné encore une autre motivation pour continuer cette vie de cinéma et de la vie la réelle.
Vous connaissez le livre de Clément Rosset, Le réel et son double?
Oui.
Alors, tant mieux, mais pour nos auditeurs, je le recommande, c'est un peu dur à lire, mais je vous conseille vraiment sur la plage de lire Clément Rosset, Le réel et son double. Dites-moi, Zahr, est-ce qu'il y a des moments où finalement le double s'en va et où vous êtes totalement vous-même, dans une sorte de présence un peu simplifiée à vous-même?
Oui, il y a des moments comme ça aussi. probablement plus que l'autre moment, mais c'est difficile à diviser ces moments. Je comprends jamais. C'est toujours un peu après que je commence à réfléchir et mon souvenir, c'est toujours avec les souvenirs que j'arrive à ce double, en fait. C'est pas comme si, en ce moment-là, si parfois je pense que je regarde oui. moi-même dans mon, œil, comme ça, à côté, mais c'est plutôt dans ma mémoire quand je me cherche, je tombe sur ce double. J'ai parfois l'impression que c'est pas moi qui l'a vécu, j'ai plus de sentiments par rapport à ce moment-là. Forcément, c'est quelqu'un d'autre qui l'a vécu.
Merci beaucoup, Zahr. L'émission touche à sa fin. C'était vraiment un plaisir de vous entendre parler. Je rappelle que vous êtes à l'affiche des Nuits de Mashhad de Ali Abbasi, que vous avez eu le prix d'interprétation féminine à Cannes. Et je vais essayer pour nos auditeurs et pour vous remercier de nous avoir rejoints ce matin, de dresser le portrait de votre philosophie de la vie. Alors, on l'a compris, une philosophie du double, mais aussi une philosophie par laquelle on essaye de se dire à un moment qu'est-ce que je fais de tout ça, comment je peux unifier l'ensemble de ces doubles et de ces dédoublements. Et il se trouve que votre réponse, c'est peut-être d'écrire votre histoire, puisque vous avez eu envie de l'écrire dès le début, dès la première heure où vous avez entendu parler de cette vidéo intime qui circulait, et que maintenant, des années après, eh bien, je crois que vous avez toujours ce projet finalement d'écrire cette histoire. C'était exactement ce que Paul Ricoeur appelle l'identité narrative. Nous sommes multiples, nous sommes complexes, mais nous pouvons devenir nous-mêmes en devenant le jeu qui raconte sa propre histoire, qui quelque part reprend le pouvoir et finalement réussit à dire « c'est moi ». Merci beaucoup, Zahr, de nous avoir accompagnés ce matin et je recommande votre extraordinaire performance dans ce très beau film « Les Nuits de Machad ». Cette émission a été préparée par Vera Louderi et Fabrice Rivaud, réalisée par Camille Maty, à la programmation musicale Valentine Chaudebois, à la technique Anne-Laure Cochet. Quant à vous, je vous donne rendez-vous demain matin à 9h précisément sous le soleil de Platon. Bonjour Eva Rock, vous arrivez tout de suite dans l'été comme jamais. Quel est le programme aujourd'hui ?
Bonjour Charles, de la gourmandise et de la littérature au menu de ce nouveau numéro de l'été comme jamais. À tout de suite.